La vallée de la peur, deuxième partie, les écumeurs, chapitre 1, l'homme. On était au 4 février de l'année 1875. L'hiver avait fait sentir durement ses rigueurs. La neige s'entassait dans les gorges des monts Garlington. Et cependant, le chasse-neige avait maintenu la voie libre, et le train du soir, chargé de desservir la longue ligne de houlières et des établissements métallurgiques, montait en geignant les gradins escarpés qui mènent de Stagville, dans la plaine, à la ville de Vernissa, bâtie à l'entrée de la vallée qui porte le même nom. À partir de ce point, la ligne s'abaisse vers Barton's Crossing, Elmdale et le compte purement agricole de Melton. Elle était alors à voie unique, mais partout complétée par des voies de garage. Les longues files de wagons, bas où s'emparaient, s'entapilaient le charbon et le minerai de fer, disaient la richesse profonde qui avait fait surgir toute une rude population et fourmiller la vie dans le recoin désolé des États-Unis d'Amérique. Car vraiment, c'était un coin désolé. Jamais le pionnier qui, pour la première fois, le traversa n'eût imaginé que les plus rares, riantes prairies, les pacages les mieux arrosés, étaient de nulle valeur comparés dans ce sombre pays de forêts et de roches. Par-dessus le noir fouillis des arbres, si serré qu'à peine on pouvait franchir les bords, les hautes cimes nues des montagnes, neige blanche et granit démêlé, s'érigeaient aux deux flancs, laissant à leur centre la large vallée tortueuse que remontait lentement le petit train. Les globes à pétrole venaient de s'allumer dans la voiture de tête, occupés par une trentaine de voyageurs, ouvriers pour la plupart, qui s'en revenaient, la journée finie, dans le bas de la vallée. Une douzaine au moins étaient des mineurs, reconnaissables à leur visage barbouillé et à leurs lampes. Assis tous ensemble, ils fumaient et causaient à voix basse, en regardant par intervalles deux hommes assis sur la banquette opposée qui portaient l'uniforme et les insignes de la police. Plusieurs femmes du peuple, un ou deux individus qui pouvaient être de petits commerçants locaux, ou enfin un jeune homme installé tout seul dans un coin, complétèrent l'assemblée. « Ce jeune homme nous intéresse. Il mérite attention. » De bonne mine et de taille moyenne, il va sur ses 30 ans. Il a de grands yeux gris, intelligents et moqueurs, dont il cligne de temps à autre en observant derrière son binocle les gens qui l'entourent. On s'aviserait aisément de ses dispositions simples et sociales, de son désir d'entrer en amitié avec tout le monde. Le premier venu devinerait en lui un être communicatif par nature et par habitude, un caractère souriant, un esprit vif. Toutefois, en l'étudiant de près, on ne manquerait pas de discerner une fermeté de la mâchoire, une contraction des lèvres, révélatrice d'un fond secret. Et l'on concevrait que le jeune homme, irlandais brun, apparence aimable, pourrait bien laisser sa marque, bonne ou mauvaise, sur n'importe quel milieu. Après avoir à deux reprises tenté de lier conversation avec le mineur le plus proche, notre jeune homme, mal reçu, s'était résigné à un silence qui lui pesait. Et tourné vers la portière, il regardait d'un air songeur filer le paysage. L'aspect en était peu fait pour le réjouir. au versant des collines, dans l'obscurité croissante, palpitaient les rougeurs des hauts fourneaux. On apercevait confusément, de chaque côté, des monceaux de scories et de cendres dominés par les puits des mines. Le long de la voie ferrée, les maisonnettes de bois, réunies par groupes, allumaient leurs vitres et leurs habitants basanés encombraient le quai des stations. Les vallées de charbon et de fer du district Vernissa n'étaient point le séjour du repos et de la culture intellectuelle. Partout s'y manifestait l'âpre bataille de la vie, le dur labeur, la rude énergie de l'homme. Et le jeune voyageur considérait, avec une répulsion mêlée de curiosité, ce paysage qu'on sentait nouveau pour lui. On voyait par instants tirer de sa poche une grande lettre qu'il consultait et en marge de laquelle il griffonnait des notes. Une fois, sa main alla chercher derrière sa ceinture un objet qui ne se fût guère attendu à trouver chez un homme de manière si douce. C'était un pistolet de marine et du plus grand modèle. Comme il le présentait de biais à la lumière, un rayon accroché par le cuivre de cartouche montra que pas une balle ne manquait au barillet. Il se hâta de le faire disparaître, mais ne s'y prit point si lestement qu'il eût été remarqué d'un ouvrier assis sur la banquette adjacente. Hé, camarade, on est armé jusqu'aux ergots, à ce qu'il me semble. Le jeune homme sourit d'un air confus. Oui, dit-il, ça sert quelquefois au pays d'où j'arrive. Et vous arrivez de Chicago, en dernier lieu. Ah, étranger, alors. Oui, je viens ici pour la première fois. Eh bien, vous vous apercevrez qu'ici comme ailleurs, c'est pas inutile. Ah, vraiment ? Fit avec intérêt le jeune homme. On vous a donc rien dit de ce qui s'y passe ? Non, rien qui m'ait frappé. Oh, j'aurais cru pourtant qu'on ne parlait que de ça dans nos parages. Vous tarderez pas à savoir. Qu'est-ce qui vous amène chez nous ? Oh, j'ai compris qu'un homme de bonne volonté y trouvait toujours du cours d'ouvrage. Êtes-vous de l'Union des travailleurs ? Bien sûr. Oh, ce cas probable que vous vous débrouillerez. Vous avez des amis ? Oh, pas encore, mais j'ai les moyens d'en avoir. Comment ça ? Ben, j'appartiens à l'ancien ordre des hommes libres. Il n'y a pas de ville sans une loge, et partout il y a une loge, j'ai des amis. Cette réflexion fit sur l'ouvrier un effet bizarre. Il promena autour de lui un regard de méfiance. Les mineurs chuchotaient entre eux. Les deux policiers somnolaient. Quittant sa place, il vint s'asseoir près du jeune voyageur et la main tendue. « Touchez-la, » dit-il. Les deux mains se joignirent. « Oui, je vois que vous dites la vérité, mais il est toujours bon de se rendre compte. » Il porta sa main droite à son sourcil droit. Immédiatement, le voyageur imita ce geste. « Oh, les nuits sont trop noires, trop désagréables, » reprit l'ouvrier. « Oui. » « Pour les étrangers qui voyageront, me répondront, dit l'autre. « Bon, suffit, je suis frère Scarron, loge 341, vallée de Vernissa. Heureux de vous voir dans ce pays. »« Merci, je suis frère John McMurdo, loge 29, Chicago, maître J.H. Scott. Vrai, j'ai la chance de tomber si tôt sur un frère. » Oh, nous sommes une tapée par ici. Nulle part dans tous les états, vous ne verrez l'ordre plus prospère. Des gens comme vous, on s'en arrange toujours. Ce qui m'étonne, c'est qu'un homme actif et qui fait partie de l'Union des travailleurs ne trouve pas de l'occupation à Chicago. Oh non, je ne peux pas dire que le travail me manquait. Alors pourquoi êtes-vous parti ? D'un signe de tête, McMurdo, souriant, désigna les deux policemen. Oh, j'ai une idée que ces cocos-là ne demanderaient pas mieux que de la prendre. Scanlan poussa un juron sympathique. Des ennuis ? Demanda-t-il dans un souffle. Oui, grave. Affaire de prison ? Davantage. Un meurtre ? Oh, il est bientôt pour parler de ces choses, fit McMurdo, de l'air d'un homme qui se surprend à dire plus qu'il ne voulait dire. Oui, j'ai eu mes raisons de quitter Chicago. Que cela vous suffise. Et qui êtes-vous d'ailleurs pour vous permettre de me poser tant de questions ? Et ses yeux gris, à travers le binocle, eurent un éclair de soudaine et dangereuse colère. « Bon, bon, camarade, il n'y a pas d'offense. Quoi que vous ayez fait, les garçons ne vous en jugeront pas plus mal. Où allez-vous ?»« À Vernissa. Troisième halte en descendant la ligne. Et où est-ce que vous allez pouvoir vous loger ?» Sous la lueur fumeuse de la lampe, McMurdo exhiba une enveloppe. Quelqu'un que je connaissais à Chicago m'a donné cette adresse d'une pension de famille, Jacob Schaeffer, Sheridan Street. Oh, connais pas. Vernissa est en dehors de mon chemin. J'habite à Orbans, Patton, pas où nous arrivons. À propos d'un conseil avant qu'on se quitte, pour peu que vous ayez des embêtements à Vernissa, allez au siège de l'Union. Ouais. Vous voyez le patron McGilty, c'est le maître de la loge. Il n'arrive rien sans qu'il y consente. Jusqu'au revoir, camarade. Peut-être se retrouvera-t-on à la loge, je ne sais soir. Mais rappelez-vous mes paroles. Au premier ennui, allez voir le patron McGilty. Scarlan descendu, McMurdo se retrouva seul avec ses pensées. La nuit était venue. Les flammes des hauts fourneaux sautaient et ronflaient dans ces ténèbres. Et sur ce fond blême, de noires silhouettes se voûtaient, s'étiraient, se tordaient, pivotaient dans le mouvement des treuils et des grues au rythme perpétuel grandement métallique. « Oh, j'ai idée que l'enfer doit avoir un peu cet aspect !» fit une voix. McMurdo, se retournant, vit l'un des policemen soulevé sur son siège, contempler l'horizon en feu. « Oh oui, je l'accorde, » dit l'autre. « Je serais surpris s'il contenait le pire diable que certains dont je sais jamais les noms. » Alors, s'adressant à McMurdo, « Un nouveau venu dans le pays, sans doute ?» « Et si cela était ?» répondit McMurdo, bourru. « Eh bien, je prendrai la liberté de vous faire une recommandation. Ne choisissez pas au hasard vos amis. À votre place, je me méfierais de McGinty et de sa bande. « Tonnerre, mais que vous importe, mes amis !» cria McMurdo, d'une telle voix que tout le monde autour de lui se retourna dans l'attente d'une dispute. « Est-ce que je vous demande votre avis ? Suis-je un bébé, incapable de me garder moi-même ? Attendez pour parler et qu'on vous parle. Vous avez si longtemps à attendre s'il ne dépend que de moi. » Et il allongeait vers les policemen un mufle de dog prêt à mordre. Oh, c'étaient deux bonnes gens, un peu apathiques. Ils demeurèrent abasourdis de la façon dont on accueillait leurs avances. « Faites excuses, étranger, » dit l'un d'eux. « Vous ne savez rien d'ici. On pense se voir de service. »« Bon, je ne sais rien, impossible, mais Je vous connais, vous et votre engeance, vociféra Macmurdo avec une froide colère. Vous êtes partout les mêmes, vous avez la rage de donner des conseils qu'on ne vous demande pas. Je crois que nous nous reverrons avant peu, fit l'un des policiers, sans se refrognant. Vous êtes un gaillard à tenir à l'œil, si je suis bon juge. Mais c'est aussi ce que je pense, ajouta l'autre. Je crois que nous reverrons. Et Macmurdo s'emporta de plus belle. Oh, ne croyez pas que j'ai peur de vous, hurla-t-il. Je m'appelle John Macmurdo. Vous me trouverez quand vous voudrez chez Jacob Schiffer, Shendall Street à Vernissa. Car je ne fais pas celui qui se cache. De jour et de nuit, j'ose vous regarder en face. Vous et les vôtres, allez, vous y trompez pas. Cette insolente bravade souleva chez les mineurs un murmure de sympathie admirative. Les deux policemen, haussant les épaules, se remirent à causer entre eux dans leur coin. Bientôt après, le train se rangeait le long d'un quai mal éclairé, et il se produisait un mouvement général de descente, car Vernissa était de beaucoup la station la plus importante de la ligne. Macmurdo, ayant pris sa valise de cuir, allait s'éloigner dans l'ombre quand un des mineurs l'accosta. « Pardieu, camarade, vous avez la manière de traiter les flics, prononça-t-il sur un ton d'estime respectueuse. Il y avait plaisir à vous entendre. Laissez-moi porter votre sac et vous montrer la route. Je vous mène chez le chauffeur. On en a dîné. Bonne nuit !» firent les autres en chœur au moment où ils passèrent. Avant même d'avoir mis les pieds à Vernissa, Macmurdo y devenait un personnage. Si la campagne qu'il venait de traverser lui avait paru un séjour de terreur, la ville était plus effrayante encore. Au moins, cette longue vallée, avec ses embrasements et ses fumées en fuite, avait une certaine grandeur sinistre. L'énergie et l'industrie de l'homme trouvaient des monuments dignes d'elle dans les hauteurs qu'elle parsemait de monstrueuses excavations. Mais la ville n'était que laideur et malpropreté. Dans la grande rue, la neige et la boue, incessamment piétinées, faisaient comme une pâte gluante. Les trottoirs étaient inégaux, étroits. Les becs de gaz, nombreux, éclairaient d'interminables files de maisons de bois, toutes ayant leur véranda sur la rue, mais négligées et sordides. Et comme Macmurdo approchait du centre de la ville, elle s'illumina tout d'un coup. Les magasins aux brillantes devantures confondaient leur rayonnement avec celui des cafés et des tripots où les mineurs venaient gaspiller un salaire gagné avec tant de peine. « Voilà la maison de l'Union !» dit le guide en désignant un café qui se haussait presque à la dignité d'hôtel. Celui qui mène tout là-dedans, c'est McGinty. Un homme de quelle espèce ? Demanda Macmurdo. Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler du patron ? Ben, vous savez que je suis étranger. Ah, ma foi, je pensais que je connaissais son nom dans tous les États. Il a suffisamment occupé la presse. Et pour quelle raison ? Mais, et le mineur baissa la voix, pour des affaires. Quelles affaires ? Bon Dieu, l'ami, vous êtes un drôle de numéro, soit dit sans vous enfoncer. Vous savez qu'ici, les seules affaires dont on s'occupe sont des affaires de écumeurs. Oui, je crois avoir lu quelque chose sur les écumeurs à Chicago. Une bande d'assassins, n'est-ce pas ? Taisez-vous sur votre vie. cria le mineur épouvanté en considérant avec stupeur le jeune homme. Oh, vous ferez pas de vieux os si vous osez, si vous vous lâchez de ces mots dans la rue. Bien d'autres que vous ont payé cher la moindre prudence. Oh, je vous le répète, je ne sais que ce que j'ai lu. Et je ne dis pas ce que vous avez lu ne soit pas vrai, mais... Le mineur, tout en parlant, regardait nerveusement autour de lui comme s'il eût craint qu'un danger ne l'épiât dans l'ombre. Si tué, c'est assassiné. Dieu sait que si l'on s'en fait pas scrupule. Mais gardez-vous bien, hein, de mêler à aucune histoire le nom de Mac Jerzy. Il n'y a pas de chuchotement qui ne lui parvienne. Et il ne laisse rien passer. Ah, voici la maison que vous cherchez. Devant vous, en retrait de la rue. Allez, je vous donne votre hôte, le vieux Jacob Schaeffer, comme le plus honnête homme de la ville. Merci, dit McMurdo. Il reprit sa valise, serra la main du mineur, s'engagea dans le petit chemin conduisant à la maison et frappa un grand coup à la porte qui s'ouvrit aussitôt, livrant passage à une apparition inattendue. C'était une jeune fille étrangement belle. De type scandinave, elle avait des cheveux d'un blond clair qui faisaient le plus piquant contraste avec ses yeux d'un noir magnifique. Elle regarda l'étranger d'un air de surprise et une aimable confusion colora la pâleur de ses joues. Dans l'encadrement lumineux de l'entrée, elle s'opposait si vivement à la sordide tristesse du décor extérieur que McMurdo pensa n'avoir jamais contemplé de sa vie un plus noble portrait. Il n'aurait pas été déconcerté en voyant éclore une violette sur un tas de scories. Et dans son émoi, il restait muet, comme en extase. Elle rompit le silence. « Oh, je croyais que c'était le père, » dit-elle avec une pointe d'accent suédois, qui donnait du charme à ses paroles. « Vous veniez le voir. Il est sorti. J'attends d'un moment à l'autre. » McMurdo continuait de la dévisager avec une si impérieuse admiration qu'elle dut baisser les yeux. « Non, miss, » répondit-il enfin, « je ne suis pas pressé de le voir. Mais je cherche une pension et on m'a recommandé la vôtre. Je supposais qu'elle me conviendrait. À présent, j'en suis sûr. Voilà une opinion vite faite. » dit-elle en souriant. Ben, « Il faudrait être aveugle pour n'être pas fixé tout de suite, » répliqua-t-il. Le sourire de la jeune fille devint un rire. « Entrez, monsieur, » reprit-elle. « Je suis Miss Elsa Schaeffer, fille de Monsieur Schaeffer. Ma mère est morte, je gouverne la maison. Vous pouvez vous asseoir près du poêle, dans la chambre de devant, jusqu'à ce que mon père revienne. Allez, voici. Voici, vous allez vous entendre avec lui. » Un gros homme d'un certain âge s'avançait pesamment dans le petit chemin. En quelques mots, McMurdo s'expliqua. Un nommé Murphy de Chicago lui avait donné l'adresse de Schaeffer qu'il tenait lui-même d'une autre personne. Le vieux Schaeffer se déclara prêt à le recevoir. McMurdo, ne sachant pas sur les conditions, il semblait avoir de l'argent. Il les accepta toutes. Pour $12 par semaine, payable d'avance, on lui assurait le logement et le vivre. Ce fut ainsi que, fuyant de son propre aveu la justice, il se réfugia sous le toit des Schaeffer. De ce jour allait dater une noire série d'événements. Il ne devait prendre fin que bien des années plus tard, sur une terre lointaine.